Le yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors, je suis de retour.
Tu es de retour, c'est très bien. Alors, tu sais ce qu'on dit, à peine pour Purim fini, on commence à préparer Pessah.
Pessah, voilà. Et à faire le nettoyage. Et c'est la catastrophe, c'est l'obsession des bonnes maîtresses intérieures.
Voilà. Alors, nous allons faire pareil avec notre émission, c'est-à-dire à peine fini Purim, nous allons commencer des émissions sur Pessah. Et donc, aujourd'hui, je vais présenter une scène de Pessah, écrite par Esther Kreitman Zinger, donc dans le roman Le Diamantaire, un roman paru en yiddish à Londres en 1944, qui a été traduit en 2014 par Gilles Rosier, avec une très intéressante préface de Paul-Henriette Lévy. Voilà, donc c'est le deuxième roman d'Esther Kreitman. Alors, Esther Kreitman est la sœur aînée des frères Zinger. Elle est née en 1891 et elle a vraiment eu un sort tout à fait triste et malheureux. Voilà, qui montre bien les problèmes de la condition féminine à l'époque. Et donc, c'était une enfant très douée, qui a appris beaucoup de choses, mais qui a toujours été réprimée par ses parents. Son père ne s'occupait pas du tout d'elle. Sa mère, qui elle-même était quand même une intellectuelle, qui lisait beaucoup, n'attachait pas d'importance à sa fille. Et aussi, les parents ont été tristes, puisque leur premier enfant est une fille. Et donc, elle a décrit ça dans une nouvelle où elle montre comment on l'a mise en nourrice. Une nouvelle qui commence quand elle est dans le ventre de sa mère.
Ah oui,
une nouvelle que nous avons déjà lue,
ouais.
qui est vraiment tout à fait originale. Mais elle a aussi écrit des romans. Et donc, elle a écrit déjà en 1936 un roman qui s'appelle « La danse des démons » chez Dim Tanz, où elle parle de sa famille, mais en donnant des noms... elle a changé les noms, hein, parce qu'elle écrit finalement tôt. Hein, elle est la première de la famille qui écrit. Et donc, elle n'a pas voulu mettre les noms réels, mais les histoires sont tout à fait réelles, c'est-à-dire cette jeune fille qui est vraiment malheureuse dans sa famille. Et alors que les frères, puisqu'après il y a eu quand même trois garçons, hein, il y a eu Yeshua Israël, il y a eu Isaac Bashevis, et puis il y a eu aussi Moshe, qui est mort durant la guerre. Mais le premier enfant était cette fille, voilà. Donc La danse des démons en 1936. Entre-temps, bien avant, elle s'était mariée, hein, donc elle se marie en 1912, un petit peu pour échapper à sa famille. Elle se marie avec le fils d'un riche diamantaire qui s'appelle Gedalia Kreitman, et elle va vivre à Anvers. Mais le problème, comme le rappelle Paul-Henriette Lévy, est que les jeunes gens abandonnent la religion. Voilà, c'est sa petite-fille Azelkar, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, puisqu'elle vit à Paris, qui raconte ainsi, dans un livre qui est paru en anglais, « My Grandmother Esther », donc en 2008, la traduction en anglais de... Non, oui, la traduction en anglais de « La danse des démons », et donc Azelkar a écrit une préface. Lorsque Esther et Abraham vinrent à Anvers, ils se révoltèrent contre la religion. Esther enleva sa perruque et son mari se rasa la barbe. Quand son beau-père l'apprit, il devint furieux et leur coupa les pieds. C'est ainsi qu'ils furent pauvres le reste de leur vie. Exactement, c'est-à-dire que donc Esther Kreitman n'aura jamais d'argent. Donc son fils, qui s'appelle Maurice Carr, le raconte. Et donc en 1913, déjà, elle va vivre en Angleterre. Mais elle a eu le temps quand même d'observer cette société des diamantaires à Anvers. Et donc, elle va vivre le reste de sa vie en Angleterre. Et elle va également écrire des nouvelles, qui s'appellent Blitz, qui ont été aussi traduites par Gilles Rosier, qui ont paru en 1950. Et elle meurt en 1953, très pauvre. Elle demande de l'argent à son frère Isaac Bashevis-Zinger, qui est aux États-Unis, qui est déjà un auteur reconnu, qui a de l'argent, qui ne lui enverra jamais un seul sou. Le frère aîné, Israël Yehoshua, est déjà décédé. Il est décédé en 1944. Et donc, elle finit cette vie misérable, mais quand même productive, puisqu'elle a écrit ses romans. Voilà, ben on va peut-être commencer par une première chanson.
Voilà, alors on a
musique.
Ça va parler de Pessah. Parce que oui, maintenant il fallait bien l'introduire petit peu. Donc pour dire, parce que moi aussi, j'ai trouvé une musique en rapport avec Pessah. Donc c'est local, si on peut dire. C'est le Quatuor Hébraïka dirigé par Hector Sabot. Et cet enregistrement a été fait à Aubernais. On reste vraiment en Alsace. Mais il s'agit d'une chanson de Pessah, Betseis Israël Mimitzrayim, quand Israël sortit d'Égypte. Alors, dans ce disque, qui n'a pas de nom, en fait, c'est le nom du quatuor Hébraïka. Le titre, c'est Musique juive et hébraïque, sacrée et profane au Moyen-Âge, 19e et 20e siècle. C'est plutôt descriptif que vraiment un titre. Il y a de la musique sacrée juive médiévale, des mélodies sacrées anciennes harmonisées au 19e et au 20e siècle, des compositions originales de musique sacrée ashkenaz du 19e siècle, ça c'est Louis Lewandowski, des chansons judéo-espagnoles du Moyen-Âge, des compositions de tradition ashkenaz en Amérique et en Israël, et enfin des chansons israéliennes. Le tout harmonisé pour quatuor d'hommes, donc quatre voix. Alors, je voulais faire entendre cette chanson. Donc c'est dans la série Musique sacrée juive médiévale et c'est vraiment, c'est en hébreu bien sûr, mais ça correspond vraiment un petit peu à la musique grégorienne. Il y a à chaque fois une voix soliste et puis comme un répond des autres chanteurs de ce groupe. Donc voici « Betseis Yisroel mi Mitzrayim ».
Voilà, donc ça, c'est une musique...
Moyen-âgeuse.
Moyen-âgeuse, d'accord.
Médiévale.
C'est sans doute pas celle qu'a entendue Esther Kreitman quand elle allait à la synagogue, si elle y allait.
Mais elle n'y allait pas.
Elle n'y allait pas, non, justement. Donc, elle n'entendait pas ces chansons.
À cause de ça, on lui a coupé les vivres. C'est
exactement. Donc, je parle de ce roman Le Diamantaire, paru donc sous le nom yiddish de Brianten, qui veut dire des diamants. Donc, c'est l'histoire de Gedalia Bergman, qui est un riche négociant anversois, qui, bien sûr, fait commerce de diamants. Alors, elle a pris pour ce personnage le prénom de son beau-père. Hein, c'est certainement pas un hasard. Donc, ce beau-père qui leur a coupé les vivres parce qu'ils n'étaient pas religieux. Et donc, il mène son commerce de diamants d'une main de fer. Sa femme Rachel est soumise à son autorité et ses enfants doivent vivre selon sa loi. Mais le royaume de Berman commence à vaciller, en particulier avec son fils David l'aîné, qui est quelqu'un qui ne travaille pas, qui fait un peu le, comment dire, qui mène un peu une vie de, comme on dit, de bâton de chaise. La Première Guerre mondiale arrive et donc Berman est évacué avec toute sa famille vers l'Angleterre. Il semble que ça a été un mouvement assez important avec l'avancée des Allemands. On a évacué beaucoup de gens vers l'Angleterre. Et donc, il se réfugie en Angleterre et c'est là qu'il va vivre finalement assez bien avec sa famille. Ils ont un appartement, ils sont vraiment dans de bonnes conditions. Lui reprend plus ou moins ses affaires. Il accueille aussi son vieux père qui vient de Pologne. Et ce qui est beaucoup moins positif, c'est que son fils est engagé dans l'armée. Donc, son fils est parti à l'armée. Alors, je vous lis le passage. Donc là, ça vient avant Pessah. Hein. Donc voilà, que se passe-t-il ? La famille qui habitait l'étage au-dessus de chez les Berman connut le sort de nombreux autres. Un fils était parti au front, la fleur au fusil. Il était en parfaite santé à son départ. Il ne revint qu'un paquet de vêtements, deux ou trois médailles et un éloge du ministère de la guerre, expliquant que le garçon avait vaillamment combattu et était mort en héros. Quand Rachel, donc Rachel est la mère de famille, vit la famille vêtue en noir, elle fut obsédée, chaque fois qu'on frappait à la porte, par l'idée que celle-ci s'ouvrirait sur le facteur porteur d'une lettre entourée de noir. On avait beau tenter de la rassurer, rien n'y faisait. On lui disait que c'était comme toujours dans la vie une question de chance, que les chanceux pouvaient même ressusciter du royaume des morts et que les malchanceux pouvaient tout simplement tomber malades et mourir. Rachel écoutait ces propos, elle n'en disconvenait pas. Donc en fait, la seule personne avec qui elle discute, c'est son beau-père, son vieux beau-père, parce que avec lui, disons qu'elle... Elle n'a pas besoin de faire semblant d'être gay. Donc, sa fille s'est mariée avec quelqu'un de beaucoup plus âgé qu'elle, mais qui a de l'argent. Et voilà qu'on arrive à Pessah. Berman, donc le père de famille, s'occupait en personne de préparer la fête de Pessah. Il avait commandé le pain zim, le vin et les autres boissons. Il était allé choisir les poulets chez le boucher. Il s'était employé lui-même à cachériser la maison et avait supervisé le grand nettoyage. Il passait ses soirées à cuisiner dans sa blouse blanche. Et ce faisant, il montrait au fur et à mesure à Rachel tout ce qu'il avait acheté pour les fêtes. Il voulait qu'elle tâte les poulets pour se rendre compte de leur qualité. Il fermait un œil et vérifiait à l'autre, à contre-jour, la pureté des œufs, avec la même attention qu'il consacrait à examiner un diamant. Mais Rachel regardait à peine, elle touchait à peine, elle secouait la tête d'un air absent et mourait d'envie de dire à son époux de lui ficher la paix. Pour le premier soir de Pessah, on avait recouvert la longue table du salon d'une nappe fraîchement amidonnée. On avait disposé trois bouquets que Jeannette, leur fille, avait fait porter par sa bonne. L'argenterie au grand complet avait été disposée sur la table. Sur une assiette dorée, on avait placé une petite carafe de vin entourée de gobelets et à côté trônaient quelques bouteilles poussiéreuses de vin de Terre Sainte. Le feu brûlait dans la cheminée, rendant le lieu plus chaleureux et plus cossu. Les lustres brillaient de tout leur éclat. Dans les candélabres en argent, deux grandes bougies rappelaient que ce soir était l'une des fêtes les plus importantes du calendrier. Berman avait pris place en bout de table. Il était vêtu d'un long kittel blanc et coiffé d'une calotte blanche brodée de fils d'argent. Son père avait été installé à l'autre bout de la table. Il était vêtu de la même manière. On aurait dit deux rois. Les autres membres de la famille se partageaient les autres places. Jeannette et son époux, Rachel, dans une robe de fête mais le visage hagard, Jacques à la droite de son père, donc Jacques est un autre fils, prêt à poser les quatre questions rituelles, puisqu'il est le plus jeune de la famille. Alors que la cérémonie allait commencer, quelqu'un frappa délicatement. On ouvrit. Il s'agissait de la voisine du premier étage, vêtue de noir, des pieds à la tête, le visage dissimulé sous une voilette de crêpe. Elle tenait dans sa main gantée de noir un panier et dans l'autre une lettre. Elle releva sa voilette noire. Elle était blême. Elle s'apprêtait à dire quelque chose, mais avant même qu'elle ait pu prononcer le moindre mot, Rachel se leva, se précipita sur la lettre. Avant de parvenir à s'approcher suffisamment pour s'en saisir, elle éclata en sanglots et se mit à crier « Mon fils, mon fils, mon Dieu !» Puis elle murmura « Je me sens mal. » Elle chancela et s'effondra. Suivit un véritable branle-bas de combat accompagnant de hurlements. On se précipita sur Rachel allongée sur le sol. On lui ouvrit la bouche pour lui faire boire de la vodka. On la pinça presque au point de lui arracher des morceaux de chair. Le voisin du premier surgit alors, suivi de ses enfants, tous vêtus de noir. Le vieux Reb Chaim Yosef avait fini par oublier qu'il était à moitié impotent. Il voulut se précipiter sur sa belle-fille, mais manqua de tomber et entraîna la nappe. Les couverts en argent tombèrent de la table dans un vacarme assourdissant. Le vin dont on avait rempli les gobelets dorés se répandit. La nappe prit feu à deux pas de la morte. Les hurlements étaient à leur comble. La bonne de Jeannette apporta de la cuisine une bassine d'eau pour éteindre le début d'incendie. Seul Jacques songea à appeler le médecin du quartier. Quand celui-ci arriva, il n'en crut pas ses yeux. Il vit deux juifs vêtus de blanc, une famille entière en noir, au milieu d'une salle à manger jonchée de vaisselle d'or et d'argent. Un corps inerte, baigné dans du vin, encerclé de feu. Les convives encore vaillants, l'air de mort-vivant, s'arrachaient le corps de la défunte, prêt à s'étriper. Une petite femme en noir se tenait dans un coin, inerte comme une statue de plâtre, le regard fixe. Le docteur ne put que constater la mort de Rachel, vraisemblablement d'une crise cardiaque. Voilà, donc un Pessard extrêmement dramatique.
Bien raconté, hein.
Voilà, très très bien raconté. Et avec ce côté négatif qu'il y a dans toutes les œuvres d'Esther Kreitman, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment jamais rien qui se passe bien. Et donc cette fête de Pessard qui a quand même été si bien préparée par ce Berman, eh bien, elle tourne vraiment à la tragédie.
Ouf, les couleurs, les ambiances, hein, le blanc, le noir, et puis le médecin qui arrive au milieu de tout ça, on se demande vraiment... Enfin, on espère encore... Enfin, moi, j'ai espéré qu'elle ne soit pas vraiment morte.
Ah oui, oui. Mais elle avait, bon, je ne l'ai pas dit, mais elle a une faiblesse cardiaque déjà d'avance et elle se fait énormément de soucis pour son fils. Ouais. Et donc, quand arrive cette lettre, elle...
Et en fait, non. Alors, ça continue, l'histoire
continue. Ça continue,
continue,
on va peut-être d'abord
faire entendre une musique, parce que tu nous diras si le fils est mort ou pas.
Voilà.
Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Alors, un petit peu de légèreté dans ce monde cruel. C'est une des versions de Khad Gadio. Il y en a par dizaines dans toutes les langues. C'est vraiment un thème formidable de ce petit chevreau qui se fait manger jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu mette un terme à cette histoire. Donc ça, c'est une version dans cette extraordinaire collection Patrimoine musicaux des Juifs de France. C'est le volume numéro 2. Musique judéo-française des 18e et 19e siècles. Vraiment très intéressant. Et il y a une partie là, dans ce recueil-là, musique du Conta Vénessin. Donc c'est Khad Gadio, le petit cabri, qui est raconté en provençal, en fait, avec des mots hébraïques. C'est relativement long parce qu'on se tape toute l'histoire jusqu'à l'intervention de Akadosh Baruch Hu. Alors, le cabri.
Une cabri, qu'avait acheté à mon père une escu, deux escu. Khad Gadia, Khad Gadia, Ezven gulu, kat kamon jalu, kabri kave ashtamon paire, in esku duz esku, Khad Gadia, Khad Gadia, svengulu cinque a mordulu ca vie mangialu cabri ca vie asta mon paire un escu dus escu cad gadia svengulu bastun capicalu cinque vie mordulu ca vie mangialu cabri ca vie asta mon paire un escu dus escu Chagadia, chagadia. Svengulu, fiocra, brulalu, bastun, cavie picalu, sin cavie mordulu, cavie mangialu, cabri, cavie asta mon paere, un escu, dus escu. Chagadia, chagadia. Svengula ego qua musalu fio cavie brulalu bastun cavie picalu shin cavie mordulu cavie mangialu cabri cavie asta mon pae in escu dus escu chagadia chagadia Svengulu bion cavie bugaila ego cavie musalu fio cavie brulalu bastun cavie picalu shin cavie mordulu cavie mangialu cabri cavie asta mon paere un escu dus escu chagadia chagadia Svengulu shocheka shachatalu bion cavie begula ego cavie amusalu fio cavie brulalu bastun cavie picalu shin cavie mordulu cavie mangialu capri cavie asta mon paere un escu dus escu chagadia chagadia Svengulu la chamave, kashachatalu shoche, kavie shachatalu biaou, kavie begula ego, kavie amusalu fio, kavie brulalu bastu, kavie picalu shin, kavie mordulu kat, kavie mangialu cabri, kavie ashta mon paere, in escu dus escu, chagadia, chagadia. Svengulu HaKadosh Baruch Hu, kashachatalu lachamave, kavie shachatalu shoche, kavie shachatalu yahu, kavie begula ego, kavie musalu fio, kavie brulalu bastun, kavie picalu shin, kavie mordulu, kavie mangialu cabri, kavie ashta mon paere, un escu dus escu, chagadia, chagadia.
Oui, c'est une série de morts aussi en cascade.
C'est vrai.
Voilà. Ouais. Donc, maintenant, il y a la description de Shiva, hein, des 7 jours de deuil. Pendant toute la durée de Pessah, l'appartement ne désemplit pas d'amis proches. Le vieux Reb Chaim Yosef ne quitta pas son lit. Telle une momie, il ne bougeait pas un cil. Il avait totalement perdu l'usage de ses membres. Seule sa langue fonctionnait encore. Il avait oublié que Rachel était morte et passé son temps à demander « Alors, comment va-t-elle »« Mieux » grondait-on en lui tournant le dos. « Mieux, Dieu soit loué !» s'exclamait le vieux au regard éteint. On aurait dit que la mort en personne souriait. Voilà encore une description extrêmement noire. Quelques jours après les obsèques, Berman prit connaissance de la lettre que le postier avait remise à la voisine. Il la retourna 10 fois entre ses mains, relisant l'adresse sur l'enveloppe. Il l'ouvrit, très angoissé. La lettre, écrite en allemand, disait « Sehr geehrter Herr Berman, pouvez-vous m'indiquer d'urgence votre prix au carat ? Si vous êtes d'accord avec le prix que je vous ai proposé, nous pouvons considérer que l'affaire est conclue. Mes hommages à votre épouse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pessah. Très respectueusement, Julius Shapiro. » Julius Shapiro est quelqu'un avec qui il était en affaires depuis très longtemps. Là, on peut voir un petit peu quand même l'humour noir, très noir, de Esther Kreitmann. Et donc, la fin du roman, Berman retourne à Anvers, il trouve sa maison dans un état épouvantable, et puis il continue à son travail. Voilà, donc un roman pas très joyeux, comme vous voyez, mais bien écrit et très intéressant, et qui décrit la vie de ces diamantaires à l'époque.
À Anvers. Quoi.
Alors une annonce.
Une annonce, un peu tard, désolée, c'est aujourd'hui même, l'émission passe le dimanche, aujourd'hui même, à 18h, dans cet endroit qui est ouvert maintenant à toutes activités, et surtout interreligieuses et interculturelles. Donc c'est l'église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, dans cet endroit qui s'appelle Nous Tous, l'église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, celle qui est à côté de Saint-Pierre-le-Vieux catholique, mais là c'est Saint-Pierre-le-Vieux protestant, en bas de la rue du 22 novembre, qui fait l'angle avec la grande rue. Et donc c'est un concert interreligieux qui s'appelle « La symbolique de l'agneau », une histoire musicale racontée par le menu. C'est vraiment très bien trouvé parce qu'il s'agit d'écouter des chansons donc dans les trois religions dites monothéistes. Donc moi-même, je présenterai en yiddish et en hébreu. Il y a Khadija El Afrit, que certains connaissent déjà à Strasbourg parce qu'elle se fait son trou, qui chante en arabe et qui s'accompagne au kanoun. Et une chanteuse et une pianiste qui viennent de Paris, Aurélie Lobé et Julie Perruche, qui vont interpréter le répertoire chrétien. Et donc, si ça s'appelle par le menu, jeu de mots, c'est aussi parce que c'est suivi d'une dégustation autour de l'agneau, avec l'agneau développé sous toutes ses formes qui correspondent aux trois religions. Donc, c'est aujourd'hui même à 18h.
Le 19 mars.
C'est ça. Et pour les réservations, je vous donne le numéro de téléphone de Laurence Rocher qui organise toute la chose. 06 87 35 64 23. Il y a aussi une caisse du soir. Vous pouvez venir comme ça sans avoir
25 réservé. Euros. Hein,
25 euros, voilà, exactement. Puisqu'il y a concert et petite dégustation. Elle appelle ça concert buffet. Voilà.
Et on vous dit shalom aleichem.
À la semaine prochaine. Merci Thomas.
Le yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.